Bonjour à tous et bienvenue sur les nouveaux chemins. Diffusés tous les jours de 10 à 11, les nouveaux chemins sont réalisés par Mydia Portis-Guérin et Philippe Polares à la technique. Ils sont préparés par Anne-Catherine Lochard. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le psychanalyste Roland Gory et le sociologue Alain Caillé. La France aime les manifestes. Il faudrait s'amuser à les compter depuis, par exemple, le manifeste du surréalisme. Récemment sont parus le manifeste pour une santé égalitaire, le manifeste pour une politique des métiers et un manifeste du convivialisme. La France aime aussi les appels. Il faudrait s'amuser à les compter depuis l'appel du 18 juin. L'histoire ne se répétant pas, il n'est pas sûr que ce comptage serve à grand-chose. Les appels se suivent et ne se ressemblent pas. Ils ont néanmoins un point commun si on les rapporte à la séquence historique qui les voit naître. Le manifeste du surréalisme est impensable, hors de la zone d'influence du mot « révolution ». Que sont alors les manifestes et les appels d'aujourd'hui comparés à ces grands exemples? Ils ne tombent pas sous le coup de circonstances historiques aussi marquées, cela est évident. Mais ils sont les symptômes d'un monde qui finit et d'un autre qui se cherche. Ce n'est pas un hasard si le président de la République, dans son discours de Bordeaux du 15 novembre, s'en est pris à ceux qui trahissaient, qui, les fraudeurs de la sécurité sociale, l'héritage du Conseil national de la Résistance. Il s'en est pris en réalité aux auteurs du manifeste pour une santé égalitaire et solidaire. Preuve que ces conseillers sont bien documentés et qu'ils ont sans doute lu les autres manifestes. Aujourd'hui, nous recevons deux auteurs ayant écrit ou participé à des manifestes, mais leur activité de pensée et d'écriture ne s'arrête pas à ce genre de tâches. Ce sont, comme on dit, deux auteurs engagés dans un travail personnel et collectif. L'un est psychanalyste et l'autre sociologue. J'ai nommé Roland Gory et Alain Caillé.
J'ai signé la pétition, bien sûr, Sauvons la recherche, Sauvons l'université, Sauvons l'hôpital, Sauvons les RASED. Enfin, on n'arrête pas de sauver. Alors, bon, finalement, toutes ces pétitions, elles sont quand même le signe, l'indice, le symptôme de malaise profond dans notre société actuelle. Je dirais même, elles sont plutôt les symptômes d'une maladie de civilisation.
Comme concept inutile, le raisonnement logique, on n'a pas l'impression que ce soit très à la mode en ce moment dans le gouvernement. L'informatique fondamentale, toute la recherche fondamentale, ça apparaît inutile. La formation des enseignants, par exemple, concept inutile d'après Xavier Darcos.
La réflexion sur la face arrière peut quant à elle être décomposée en 7 étapes décrites par la figure 42. La rotation finale est égale à la rotation
de la réception avec leur bagage. Le décor de la salle était résolument moderne.
Il s'appelait Siagrius. Il était le fils d'Aegidius. Il ne portait ni le titre de maître des milices.
La vie ne doit pas simplement obéir au principe d'utilité. Ce sont des pauses respiratoires. C'est essentiel, c'est comme l'oxygène, la poésie. Vous voyez ? C'est-à-dire, si vous privez le corps humain de l'oxygène, bah, finalement, vous le tuez. Bah, si vous privez, finalement, la cité, si vous privez la culture et la civilisation de cet oxygène que constitue la parole, que cet oxygène que constitue la poésie. Enfin, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut avoir simplement... On a, comme toute lecture, les modes d'emploi ? C'est-à-dire, c'est ça ? C'est-à-dire que notre culture doit être une culture du mode d'emploi ?
Bonjour Roland Gory.
Bonjour Philippe Petit.
Bonjour Alain Caillé.
Bonjour.
Alors je me suis pas trompé, l'un est sociologue et l'autre est psychanalyste, c'est bien ça ?
Officiellement, je suis sociologue.
Alors vous avez un point commun, vous avez tous les deux publié peu ou prou un manifeste. Enfin, en tout cas, on peut supputer, Roland Gory, que dans le livre, petit livre paru au Mille et une nuits, intitulé « Politique des métiers » sous-titré « Manifeste », vous avez participé, puisque vous êtes le fondateur de l'Appel des Appels. Donc, c'était en décembre 2008 et nous sommes en décembre 2011. Alors, Roland Gory, que s'est-il passé depuis décembre 2008 et puis, un petit rappel de ce que c'est l'Appel des Appels pour nos auditeurs.
Oui, alors le premier point, l'ouvrage La politique des métiers, ce manifeste de l'Appel des Appels, c'est un ouvrage collectif. Donc plusieurs personnes ont participé. J'ai fait partie du groupe qui a construit bien évidemment ce manifeste, qui fait un état des lieux que nous avons commencé à établir depuis maintenant 3 ans, à savoir qu'aujourd'hui, on a tendance, avec des réformes gouvernementales, à décomposer, recomposer nos métiers, je dirais, par une espèce de colonisation de la religion de marché, chose qu'on peut développer d'ailleurs par ailleurs, c'est-à-dire une certaine idéologie de l'homme économique, également d'ailleurs Alain Caillé évoque cette question.
Alors nos métiers, préciser lesquels d'emblée?
Nos métiers, c'est bien évidemment les métiers qui participent à la construction de l'espace public et du bien commun, c'est-à-dire les journalistes, c'est-à-dire les médecins, c'est-à-dire les soignants, c'est-à-dire les chercheurs, les enseignants, les travailleurs sociaux, les acteurs culturels, les magistrats. Et tous ces, si vous voulez, tous ces professionnels s'inquiètent de voir aujourd'hui pervertir, instrumentaliser leurs actes professionnels pour simplement promouvoir une idéologie qui est celle du néolibéralisme. Donc c'est une manière de témoigner, de protester de notre colère, de nos chagrins face à cet état des lieux. Vous évoquiez quasiment dans une définition à la Gramsci ce qu'était la crise, c'est-à-dire lorsque le vieux monde tarde à mourir et lorsque le nouveau monde tarde à naître. Je crois qu'on est vraiment au pli d'une civilisation en ce moment-là où se joue dans le champ de l'éthique, dans le champ des valeurs, un enjeu fondamental.
Alors, dans la foulée de cette politique des métiers, petit livre qui paraît au mille et une nuits, vous avez publié, alors là aussi, livre collectif, La folie, évaluation, sous-titré Les nouvelles fabriques de la servitude. Vous nous expliquerez pourquoi. Et dans la foulée toujours, et cette fois-ci un autre éditeur, Les liens qui libèrent, alors un livre personnel qui s'intitule La dignité de penser. Alors Alain Caillé, là je me tourne vers vous maintenant, vous, c'est votre titre, c'est Pour un manifeste du convivialisme, et c'est publié au bord de l'eau. Alors pourquoi ce besoin? Alors je signale aussi aux auditeurs en même temps la parution, puisque vous occupez de la revue Mauss qui paraît à la découverte, la parution donc du dernier né, Émancipation, individuation, subjectivation, sous-titré Psychanalyse, philosophie et sciences sociales, ouvrage dans lequel d'ailleurs Roland Gory a écrit, en tout cas répondu à des questions écrites que vous lui avez posées. Mais Alain Caillé, alors pourquoi avez-vous éprouvé, parallèlement à cette activité d'homme de revue, avez-vous éprouvé le besoin d'écrire ce manifeste?
Ce manifeste qui n'est pas un manifeste, qui s'appelle « Pour un manifeste » et qui s'était intitulé primitivement « Pré-manifeste ». C'est un peu étrange. Alors, je vous écoutais tout à l'heure, vous avez tout à fait raison. Les Français raffolent des appels ou des manifestes. Je me disais, en vous écoutant, les appels se ramassent à l'appel, et les manifestes aussi. Ce texte a un statut un petit peu particulier. Il est le résultat indirect d'une commande par l'éditeur de Roland Gory, Les liens qui libèrent, qui avait déjà publié un manifeste des économistes atterrés, que j'ai d'ailleurs signé, qui est tout à fait important, qui remporte un grand succès et qui définit de manière cohérente et de façon beaucoup plus précise et détaillée que la plupart des textes de ce genre une politique économique alternative possible à celle qui domine aujourd'hui. Et Henri Trubert, l'éditeur des liens qui libèrent, m'avait demandé d'écrire un manifeste du convivialisme dans le sillage d'un petit ouvrage que j'avais rédigé avec 3 amis, Marc Imbert, un économiste qui travaille actuellement au Japon, et puis Patrick Vivray, très connu dans les milieux associatifs, démocratiques ou attaques, etc., et Serge Latouche, mon ami et complice et rival Serge Latouche, qui est un membre du Mauss également et qui est considéré comme le pape de la décroissance, et qui est souvent considéré au Mousse comme mon antipape. Alors, il m'a nommé antipape de la décroissance.
Les auditeurs qui ne connaissent pas le Mousse, présentation quand même.
Le Mousse, en deux mots, c'est une revue interdisciplinaire de sciences sociales, philosophie politique. Ça veut dire mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, et le nom rend hommage à Marcel Mauss, l'héritier d'Émile Durkheim, le fondateur de l'anthropologie française, et surtout l'auteur d'un texte, à notre avis, absolument fondamental, 1925, qui s'appelle « L'essai sur le don », dont la conclusion essentielle qui va nous permettre de rediscuter avec Roland Gori, conclusion essentielle après avoir rassemblé toute la littérature ethnologique de son temps, et que l'homme n'est pas naturellement un homo economicus. L'homo economicus, dit Mauss, n'est pas derrière nous, il n'est pas là à l'origine des sociétés humaines, il est devant nous, il est à venir. Et puis, on peut constater qu'il est effectivement advenu. Cette revue du Mauss rassemble des auteurs d'inspiration relativement diverses, malgré des convergences, et un des auteurs principaux, c'est mon ami Serge Latouche, qui est un peu le nom principal en France en matière de défense des idées de la décroissance. Patrick Vivray, lui, étant, comme Dominique Méda, le champion des indicateurs de richesse alternatif, de l'idée que le PIB, il n'y a pas que ça dans la vie, il faut mesurer autrement la richesse, ce qui fait le bien-être, etc., et également le défenseur de thèses qu'on pourrait ranger sous l'étiquette de sobriété volontaire. Je dis leur nom parce que ça renvoie à un livre précédent qui s'appelait, rédigé avec eux, qui s'appelait « Dialogue », qui s'appelait « De la convivialité », dialogue sur la société conviviale à venir, aux éditions La Découverte. Et ça nous avait paru très important de constater que malgré nos divergences, puisque j'ai des réticences sur la décroissance, j'ai des réticences sur l'idée même d'indicateurs de richesse alternative pour des raisons qui concernent, je pense, Roland Gori aussi, on va y revenir, malgré nos divergences, il nous a paru plus important d'afficher ce que nous avions en commun que ce qui nous séparait. Et ce que nous avons en commun, nous sommes mis d'accord sur cette étiquette convivialisme.
Alors, pourquoi la convivialité plutôt que la coopération, plutôt que l'association, plutôt que, etc.
Alors, d'abord parce que nous nous sommes rencontrés à Tokyo à l'occasion d'un colloque consacré en hommage à Ivan Illich, qui est l'inventeur du mot convivialité. Donc, le nom s'imposait un petit peu. Et à bien y réfléchir, même si ce mot ne me plaît pas énormément, il y a un côté gentillé dans convivialisme. Ça fait un peu boy scout généralisé. C'est pas comme ça que je l'entends, mais c'est ce que ça pourrait évoquer. Malgré tout, je pense que c'est quand même le terme le meilleur, l'expression la meilleure, pour désigner le problème fondamental qui se pose à nous, à savoir comment pourrons-nous continuer à vivre ensemble en nous opposant sans nous massacrer, sachant que les idéologies politiques qui nous ont permis de le faire dans ces cas démocratiques jusqu'à présent, c'est-à-dire les grandes idéologies, libéralisme, socialisme, éventuellement communisme, anarchisme, ne sont plus précisément à la hauteur des problèmes que nous avons affrontés, pour une raison qu'on peut résumer en deux mots. C'est que toutes, chacune à leur manière, reposaient sur le postulat que le problème fondamental de l'humanité, c'est la rareté matérielle, la rareté des moyens matériels de satisfaire les besoins. En conséquence, la solution première au problème de l'humanité, pour ces quatre doctrines, chacune à sa manière, c'est bien évidemment l'accroissement de la richesse matérielle, c'est la croissance infinie. Or, cette croissance n'est plus présente au rendez-vous, en tout cas dans les pays riches, en tout cas en Europe, en tout cas aux États-Unis. Et de toute façon, tout le monde sait bien qu'elle ne peut pas être universalisée à la planète entière, pour des raisons écologiques.
Donc c'est l'acceptation de la finitude de
c'est
notre Terre.
De la finitude, voilà. C'est l'acceptation de la finitude, et en ce sens, il ne s'agit pas de dire qu'on va produire des idées radicalement nouvelles, mais en ce sens, il faut procéder à un aggiornamento par rapport aux doctrines héritées qui ne se sont pas confrontées à ce problème-là. Et là, nous sommes face à une question dramatiquement simple. Qu'est-ce qu'on fait pour sauver la démocratie, pour continuer à vivre ensemble sans se massacrer, si nous ne pouvons plus partager l'espoir que chacun sera toujours plus riche chaque année à venir.
Alors, voilà. Le sens massacré est important, Alain Caillé. Je crois qu'il est important également pour Roland Gori. Mais est-ce qu'il ne sous-entend pas que ce qui est en panne dans la démocratie, c'est aussi la culture du conflit? Et que, en un certain sens, et vous l'avez évoqué, puisque vous avez évoqué l'héritage à la fois du socialisme réel et du libéralisme, il pourrait y avoir, du fait des expériences historiques passées, des formes d'inhibition sociale nouvelles qui se sont développées et qui empêcheraient peut-être une nouvelle culture du conflit d'advenir.
Je suis totalement d'accord. Il me semble qu'en effet, nos sociétés vivent sur un déni permanent du conflit et de l'opposition, qui est masqué, et là on va ouvrir le débat avec Roland Gori, qui est masqué par une culture de l'évaluation, non plus une culture du débat, de l'affrontement d'idées, etc., mais une culture de l'évaluation en surplomb, supposée objective, objectivante, et qui correspond, mais là on aura une petite discussion, je pense, avec Roland Gori, qui correspond, je pense, à la domination de traits d'allure totalitaire au sein de nos sociétés.
Roland Gori.
Je crois que le point commun à l'ensemble de ces appels et effectivement aux travaux d'Alain Cailliez et aux nôtres, c'est incontestablement une protestation face à une civilisation qui conçoit la nature et l'humain comme un capital, un fonds d'énergie à exploiter à l'infini. Et ça nous conduit à l'abîme parce que cette idéologie de l'homme économique n'est pas forcément économiquement rentable. On voit bien que cette objectivité, elle est formelle plus que réelle. Alors, par rapport à la question de l'évaluation et par rapport à la question de la pensée, finalement, puisque c'est aussi sur ce thème-là que vous m'avez sollicité, Philippe Petit, moi, je crois que nous sommes aujourd'hui dans une démocratie qui est de plus en plus une démocratie d'expertise. C'est-à-dire une démocratie qui confie aux experts le soin de légitimer des prises de décisions politiques. Je m'explique. Aujourd'hui, finalement, on va avoir, par exemple, un crime absolument terrifiant, un fait divers tragique, une adolescente qui est tuée, violée. Bon. Et à ce moment-là, vous avez une mise en scène de ce fait divers, avec l'annonce, un effet d'annonce d'une réforme, par exemple, de la responsabilité des mineurs, ou une réforme de la prévention d'actes aussi terribles, n'est-ce pas, dont on peut penser, pour les avoir un petit peu suivis ces quelques dernières années, que c'était déjà dans les tiroirs du ministère. C'est-à-dire qu'on voit bien, pour lire autrement, vous voyez comment, étant donné qu'il y a un effacement des grands récits, étant donné qu'il y a une crise, on va dire, des récits mythiques, idéologiques, fondateurs, des récits de transcendance, on va plutôt aller du côté d'une mise en scène par le fait divers pour prendre une décision politique qui est déjà établie en s'appuyant sur l'autorité d'experts et, si possible, dit objectif.
Oui, Roland Gori, pour répondre quand même à la question de la culture du conflit, vous, votre fil rouge, et vous reprenez d'ailleurs à ce titre la phrase de Walter Benjamin, le cours de l'expérience a chuté ou a baissé, vous nous dites, et en tant que psychanalyste, le cours de la parole a inexorablement chuté. Qu'est-ce que vous entendez par « le cours de la parole a chuté » ?
C'est aussi dans la lignée de Walter Benjamin. C'est-à-dire
oui, c'est dans la lignée. C'est la même phrase avec « vous avez remplacé parole par expérience oui, » et « expérience par parole », pardon.
Écoutez, soyons très concrets. Lorsque nous avons aujourd'hui des évaluations formelles qui passent par des grilles et qui donnent une apparence d'objectivité, alors que bien souvent, elles ne le sont pas. Ça veut dire, par exemple, qu'au niveau d'un service hospitalier, vous allez faire passer au travers de ces grilles une expérience dont on va perdre une grande partie de sa substance. Et au lieu d'avoir un cahier de transmission, au lieu d'avoir, n'est-ce pas, une possibilité de parler de ce qui s'est passé dans un service, on va répondre à un certain nombre de questions, d'items, n'est-ce pas, qui vont établir des informations. Donc on voit bien comment aujourd'hui, finalement, la parole... Le cours de la parole baisse et baisse indéfiniment. Et en lieu et place, on substitue des grilles qui donnent des informations très techniques, si possible commensurables, si possible donnant une apparence d'objectivité et de quantification. Donc si vous voulez, je crois là que nous sommes dans une crise qui est à la fois une crise des valeurs, qui est une crise de transmission d'une génération à l'autre de l'expérience vécue, et d'une crise de la parole. C'est-à-dire qu'on n'a plus le temps, ce qu'on remarquait déjà Walter Benjamin, on n'a plus le temps de raconter une histoire de vie. On transmet des informations. Et je crois que ça vient aussi témoigner, c'est à la fois un opérateur et un symptôme, si vous voulez, de la transformation d'un système de communication et de révélation entre les humains qui passe aujourd'hui beaucoup plus par l'information que par la parole, c'est-à-dire par un système technicien, parce qu'il faudrait aussi revenir, n'est-ce pas, dans la crise évoquée tout à l'heure par Alain Cailliez et par vous-même, il va de soi que nous rencontrons la question de l'hégémonie aujourd'hui de la technique et de la possibilité d'une coordination par l'informatique de l'ensemble des sous-systèmes techniciens.
Alors là, on parlera tout à l'heure de l'homme numérique, c'est une partie de votre ouvrage, mais je voudrais signaler quand même qu'il y a un très bel exemple de grille dans votre livre « La dignité de penser », donc qui vient de paraître au lien qui libère. Elle se trouve page 69, exemple de grille de Rattus. Bah, on va lire uniquement quelques petits items, quelques petits points. La plupart des gens semblent être plus agressifs et s'affirmer mieux que moi. Coché. Il m'arrive, par timidité, d'hésiter à donner ou à accepter des rendez-vous. Coché. Quant au restaurant, la nourriture ne me satisfait pas. Je m'en plains au serveur. J'évite soigneusement de blesser les sentiments des autres, même quand je sens que j'ai été offensé. Si un vendeur s'est donné beaucoup de mal pour me présenter une marchandise qui ne me convient pas tout à fait, il m'est difficile de dire non. Quand on me demande de faire quelque chose, j'insiste pour en connaître les raisons, etc., etc., etc. Alors, bel exemple de grille, et vous allez d'ailleurs publier prochainement, vous n'arrêtez pas, Roland Gori, un livre en 2012 sur les grilles, non ?
C'est Barbara Gassin qui coordonne cet ouvrage collectif, mais je vais y participer, notamment à propos de la question effectivement des grilles. On voit bien comment, justement, ces grilles assèchent l'expérience clinique et la capacité de la transmettre par la parole. Vous avez oublié un item, Philippe Petit, qui vaut quand même le coup, si je peux me permettre. Je ne sais souvent que dire à des personnes attirantes du sexe opposé. On voit bien là la saturation culturelle d'un élément de diagnostic qui se veut absolument objectif.
Star ou boudin, femelle en tout genre, je vous aime. Même à la dernière déconne, je veux dédier ces quelques vers issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète ne sera jamais plus con que son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher. Que tu vas pas mourir à la guerre, parce que la vue d'une arme à feu fait pas frissonner tes oreilles. Parce que dans les rangs des chasseurs qui dégomment la tourterelle et occasionnellement les beurs, j'ai jamais vu une femelle. Pas une femme n'est assez minable pour astiquer un revolver et se sentir invulnérable, à part peut-être Madame Thatcher. Et pour tes yeux, quand la force de l'homme ne tient que dans son flingue ou dans sa queue. Et quand viendra l'heure dernière, l'enfer sera peuplé.
France Culture, vous écoutez Les Nouveaux Chemins de la Connaissance en compagnie du sociologue Alain Caillé et du psychanalyste Roland Gori qui vient de publier La dignité de penser au lien qui libère. Et Alain Caillé, quant à lui, pour un manifeste du convivialisme qui vient de paraître au bord de l'eau. Alain Caillé, alors, Roland Gori, lui, parle de crise de civilisation. Il insiste de façon très précise sur l'évaluation. Nous avons évoqué une grille parmi d'autres et nous doutons bien qu'il y en a bien d'autres dans la culture du management. Est-ce que le convivialisme peut nous aider à échapper à ce que Roland Gori appelle de façon un peu brutale le management par la rivalité et la peur?
Oui, le convivialisme le peut.
Alors,
seul
comment
le convivialisme peut le faire.
Mais je reviens tout petit peu en arrière.
Allez-y.
Le livre s'appelle « Pour un manifeste du convivialisme ». Parce que je ne prétends pas l'écrire moi-même ou tout seul. Ma conviction, c'est qu'il y a une doctrine de philosophie politique au sens très général du terme, une idéologie, si on préfère, qui se cherche un peu partout. C'est l'ensemble des alternatives au monde actuel qui se cherchent à travers des milliers d'expériences concrètes et à travers des dizaines de formulations doctrinales en France, en Europe ou dans le monde entier. Et simplement, ce qui manque à toutes ces expériences, soit pratiques, soit expériences de pensée, c'est un sentiment suffisamment fort de leur unité et de leur convergence possible. Et c'est sur ce lieu de convergence possible que j'essaie de mettre, comme Patrick Vivret et Serge Latouche, dont je parlais tout à l'heure, de mettre le nom de convivialisme, qui est le nom d'impossible. Mais je ne prétends pas en être le génial inventeur, le propriétaire. C'est pour ça que ça s'appelle « Pour un manifeste du convivialisme », de façon à ce qu'on puisse avancer collectivement. Alors ça, c'est une première chose. Est-ce que le convivialisme peut répondre au problème du management contemporain? Je pense que oui, en tout cas, c'est son objet et son objectif principal. Je voudrais dire que je souscris totalement aux analyses de Roland Gori. Et sur deux points. Premièrement, toutes les grilles d'évaluation quantitatives, quantophréniques utilisées sont erratiques, sont fausses. Et deuxièmement, elles provoquent des ravages. Alors, il faut détailler un peu ces deux points. Premier point, elles sont fausses. Un seul exemple que je trouve extraordinairement parlant. En matière d'évaluation de la qualité des articles mathématiques par la bibliométrie, il y a deux grands indices qui existent au monde. Science, si je ne me rappelle plus les noms exactement, mais peu importe. Dans un de ces deux indices, la revue qui est classée première par l'autre indice est en 200e position dans le deuxième indice. Et la revue qui est classée deuxième n'apparaît même pas. Donc, selon les indices utilisés, bibliométriques utilisés, on a des résultats radicalement différents. Donc, première chose, ces évaluations quantitatives, théoriquement objectives, sont fausses, tout simplement. Mais à certains égards, c'est même pas. Bon, puis il faut rajouter qu'en plus, ça ne sert quasiment à rien parce que. Et ça, c'est peut-être pas suffisamment dit. J'en parlais avec notre ami Christian Laval l'autre jour, dans l'appel des appels, parce qu'en fait, les décisions sont prises tout à fait indépendamment.
Christian Laval qui fait partie de l'appel des appels.
Groupe de l'appel des appels, et également du groupe du MOSE. Les décisions sont, en tout cas à l'université, on le voit bien, sont prises tout à fait indépendamment des évaluations supposées objectives. C'est des décisions politiques, comme toujours, masquées par tout un appareillage pseudo-quantitatif. Mais le point plus important encore, à certains égards, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'effet de sidération, de désolation et de déshumanisation que produit l'usage systématique de ces indices qui fonctionnent comme une sorte de nouvelle novlangue terrorisante pour tout le monde. Et ça, on peut l'expliquer, je vais redonner la parole à Roland Gori.
Roland Gori, vous parlez vous-même de sidération.
Notamment, oui, très certainement, parce que ça évoque des expériences totalitaires, il faudra y revenir. Mais je pense qu'une bonne manière de comprendre pourquoi ça produit cet effet de sidération et de démotivation à certains égards, c'est une distinction que je trouve très, très éclairante, utilisée par certains économistes depuis quelques années, entre ce qu'ils appellent les motivations intrinsèques du travail ou de l'action, et les motivations extrinsèques. Les motivations extrinsèques, c'est ce qu'on fait pour gagner de l'argent, pour avoir un salaire élevé, gagner du pouvoir, du prestige. Ça, c'est absolument indifférent à l'activité particulière dans laquelle on se trouve. Qu'on soit dans la musique, dans l'hôpital, à l'université, la motivation est la même, gagner de l'argent. Ça, c'est des motivations extrinsèques par rapport au corps de métier. Les motivations intrinsèques, en revanche, ça renvoie à tout ce que l'on fait, pour tout un ensemble de raisons très diverses qui peuvent être les choses que l'on fait par sentiment du devoir, par conscience morale, les choses que l'on fait par solidarité avec les autres, et les choses que l'on fait pour le plaisir particulier pris à cette activité particulière. Tout ça, c'est les motivations intrinsèques au métier particulier. Et ces motivations intrinsèques, elles ne s'expriment pas à travers les indices quantitatifs, elles risquent au contraire d'être totalement démobilisées au profit des motivations extrinsèques, et c'est ce qu'on va se profiler partout, et notamment à l'université, où ça devient tout à fait catastrophique.
Il y a une chose qui s'appelle la population. Il y a une chose, bon, disons, les nations, par exemple, telles que nous les connaissons, ou bien les cités antiques, ont des populations, il y a des règles d'inclusion. Il y a par ailleurs, bon, le peuple défini par des constitutions, qui définit des droits du peuple, des libertés du peuple, et ainsi de suite. Et puis, je dirais, il y a, le peuple supplémentaire, c'est quoi? Au fond, c'est le peuple qui crée ces scènes politiques supplémentaires, le peuple qui vient toujours en supplément. Donc ce peuple qui n'est pas une partie de la société, qui n'est ni la société dans sa totalité, ni la majorité de la société, je dirais que il y a peuple au sens politique lorsqu'il y a une mise en scène d'un pouvoir du peuple qui n'est pas le pouvoir de la collectivité, mais le pouvoir de n'importe qui. C'est-à-dire précisément le pouvoir de ceux qui ne sont pas particulièrement légitimé à gouverner. Donc, ça veut dire que, au fond, le peuple politique, il se donne très souvent à travers d'autres sujets. C'est-à-dire, bon, il y a un groupe qui ouvre une scène politique. C'est-à-dire, c'est une figure du peuple, même si ça porte pas le nom de peuple, même si c'est une fraction du peuple. Et on a ces exemples célèbres, bon, de gens qui défilent derrière des banderoles. Nous sommes le peuple. Et bon, ils sont très peu nombreux. Et pourtant, ils sont bien un certain peuple. C'est-à-dire, ils sont ce peuple qui justement n'est pas compté, n'est pas inclus par le système existant de l'État, qui ne s'identifie pas non plus à la somme de la société, ni à la répartition des intérêts sociaux, et ainsi de suite. Je dirais que c'est ça fondamentalement, et qui est tout à fait différent, effectivement, de toute forme de peuple en tant qu'ethnos. Bon, c'est pour ça que je pense que, effectivement, le démos de la démocratie, c'est l'opposé de l'ethnos. Bon, l'ethnos, c'est le peuple en tant que les gens qui sont définis par une origine commune, un sang commun, une terre commune, que sais-je, des mœurs communes. Non, le démos, c'est le peuple en tant qu'il est défini, on peut dire, en excès par rapport à ça. Les gens qui sont simplement là, quoi, et qui affirment le droit de ceux qui sont simplement là, sans avoir aucune qualité ethnique ou sociale particulière.
France Culture, vous écoutez Les Nouveaux Chemins de la Connaissance en compagnie du sociologue Alain Caillé et du psychanalyste Roland Gory. Nous écoutions à l'instant le philosophe Jacques Rancière dans une archive du 11 novembre 2005 à propos de son livre « La haine de la démocratie » qui était paru à l'époque aux éditions La Fabrique. Alors Roland Gory, on essaye d'égrener en quelque sorte, non pas de vieux démons, mais de vieux fétiches. Alors la démocratie, le peuple, vous y ajoutez, vous, la note de la crise de civilisation après Freud. Et j'aimerais quand même qu'on puisse entrer dans ce qui constitue quand même le cœur de votre démarche, y compris dans la dignité de penser. Pourquoi s'intéresser à nouveau, d'aussi près, à l'amour des métiers, à la politique des métiers, et en même temps condamner, non pas le système technicien en soi, mais disons ce qu'il peut devenir lorsqu'il est utilisé à mauvais escient, mais surtout comment vous-même vous parvenez, disons, à affirmer que les champs professionnels ont perdu leur autonomie spécifique du fait d'une nouvelle culture née sans doute du capitalisme financier ou de ce que vous appelez le néolibéralisme, et en même temps prononcer quand même une expression qui est forte, les nouvelles fabriques de la servitude, comme si le peuple que nous venons d'entendre au travers de la voix de Jacques Rancière, le démos, ne pouvait plus exister par lui-même.
Les métiers aujourd'hui sont contrôlés et normalisés au nom de chiffres, au nom d'une culture de résultats, etc. Donc, nous avons essayé, Alain Caillé et moi, de dire à quel point elle s'avérait artificielle, formelle. Bon, elle a quand même un objectif et une finalité majeure, c'est justement la soumission sociale librement consentie. C'est-à-dire que les chiffres sont là pour nous faire taire et non pas constituer l'occasion d'en parler. Donc c'est le premier problème. Donc effectivement, au niveau des métiers, il faut être très concret. Lorsque vous avez à l'hôpital la T2A, la tarification à l'activité, cela veut dire que le soin se réduit à la part la plus technique, n'est-ce pas, de son acte. Et que, bien évidemment, d'ailleurs, ça distribue autrement, pourrait-on dire, la hiérarchie entre les sous-disciplines du savoir médical. Davantage c'est technique, davantage c'est payant, et davantage ça prend de la valeur. Nous sommes face, si vous voulez, à un conflit majeur sur la notion de valeur. Si la notion de valeur se réduit à la question de la mesure qui débouche tôt ou tard sur la question de la marchandise et du prix, alors c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui, il faut continuer à non seulement réduire les déficits publics, réduire les budgets accordés à l'éducation, à la santé, etc., à la culture et autres, mais bien sûr, il faut coloniser l'ensemble de ces professions par une manière de penser le monde, soi-même et son service de façon financière.
Alors, dans le cas de l'hôpital, le fait que le soin ne soit qu'un moyen pour satisfaire les logiques de gestion. Qu'est-ce qui fait que, finalement, les soignants ont accepté cette logique ?
Ah, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils aient accepté cette logique. D'une part, ils la refusent parce que la plupart du temps, dans leurs actes professionnels, n'est-ce pas, ils ne sont pas complètement robotisés par la néo-évaluation et soumis, bien évidemment, aux impératifs. Parce que ce sont des impératifs, ce sont des injonctions à la fois morales, pourrait-on dire, et sociales qui se produisent. Et je pense que les soignants continuent à s'occuper, bien évidemment, de leurs patients. Sauf que les textes précise que les soignants deviennent des clients ou des usagers, ce ne sont plus des patients. Sauf que le soin n'est plus le soin, c'est une prestation de service rendu. Donc vous avez toute une conception du monde là qui se trouve greffée sur nos métiers.
Et effectivement, alors c'est pour ça que vous parlez de crise de civilisation.
C'est pas seulement pour ça, non, mais entre autres c'est effectivement pour ça. C'est-à-dire, pour prendre ce que vous avez dit tout à l'heure quand vous en avez parlé avec Alain Cayet, concernant les indignés. Les indignés ont une très grande diversité, une très grande hétérogénéité, mais tous, n'est-ce pas, finalement, protestent contre la transformation de l'homme en produit financier comme un autre, pour aller très vite. C'est-à-dire que la dignité, depuis Kant et même bien avant, la dignité, c'est ce qui permet de considérer que si une chose a un prix, l'homme, lui, à sa dignité, et qu'on ne peut pas effacer cette frontière-là. Or, aujourd'hui, elle s'efface. Elle s'efface pas seulement dans l'économie matérielle, elle s'efface aussi par une économie symbolique qui amène à penser tout ce que nous faisons en termes, justement, de prix, en termes de mesure, et non pas en termes de finalité, de dignité.
Mais en même temps, Roland Gori, vous semblez conscient des limites de la critique et de la critique sociale au sens classique du terme, parce que vous faites référence à l'instant, disons, aux indignés, mais il ne semble pas que l'appel des appels dont vous vous occupez aille dans ce sens-là.
L'appel des appels, si vous voulez, c'est une initiative, c'est un mouvement, c'est un collectif, et on ne peut pas savoir ce qu'il sera, bien évidemment, demain. Mais dans tous les cas, je crois que ce qui est essentiel, c'est de retrouver le sens, la finalité de nos métiers, et d'essayer de montrer comment aujourd'hui l'instrumentalisation de ces métiers, la perversion également des objectifs qui sont les leurs, conduisent véritablement à une crise de civilisation, enfin révèlent une crise du vivre ensemble. Vous savez, Hannah Arendt disait que ce qui était terrible dans nos sociétés de masse, ce n'était pas le nombre des individus, c'était la perte du monde qu'ils avaient en commun. Je pense que les professionnels que nous représentons, si vous voulez, participent à la construction de ce monde en commun qui est en train de se déliter sous l'impact d'une religion du marché.
Alain Cayet.
Ce qu'il faut ajouter peut-être sur cette manie cantophrénique de l'évaluation, c'est que sous couvert de procéder à une rationalisation économique, elle coûte cher. Et ça, c'est vraiment très important. Et c'est tout à fait instructif de comprendre pourquoi. On le voit avec l'exemple de la tarification à l'acte. C'est qu'en décomposant des activités qui étaient des activités complexes, synthétiques, finalement, on multiplie le nombre de choses à faire. Et ça, on a pu le montrer dans différents articles publiés dans la revue du MOUS, mais disons-le de manière synthétique. Au fond, ce à quoi aboutissent toutes ces logiques d'évaluation, et qui ont effectivement une dimension d'asservissement, c'est à supprimer toutes les dimensions de gratuité qui existaient encore dans les activités. Or, ce sont ces gratuités qui étaient la source de véritable efficacité et de productivité ou de rentabilité. Et donc, c'est un peu comme si on tuait la poule aux œufs d'or. Après, l'autre aspect, pourquoi est-ce que c'est la question que vous posiez à Roland Gori? Comment est-ce que ça s'impose? Pourquoi est-ce que ça s'impose? Il faut quand même bien voir qu'il y a un système un peu de terreur larvée, qui n'est pas une terreur, on n'est pas emmené en camp de concentration, fusillé. Mais moi, je le vois très bien dans les universités. La menace qui pèse sur tout le monde et qui fait que tout le monde se tait, c'est bien évidemment de voir son laboratoire, son équipe déconsidérée, de ne plus avoir de crédit de recherche, etc. Donc il y a une espèce de course généralisée qui s'établit à l'excellence supposée.
Je pense qu'il y a une légitimité de la délégation politique. Je crois vraiment qu'il est important que les citoyens vraiment puissent à la fois avoir des délégués et en même temps à la fois garder le contrôle des délégués et garder l'accès direct à la parole à côté des délégués et parfois contre les délégués. Je pense que c'est ça la démocratie, alors que les formes autoritaires de démocratie, c'est-à-dire la non-démocratie, consiste à plébisciter une fois pour toutes des délégués qui ensuite parlent à la place de ceux qu'ils sont censés représenter. Et moi, je pense que tout le monde disserte sur la démocratie. C'est un des thèmes favoris des philosophes de la politique, qui sont la philosophie du pauvre. La démocratie, en termes simples, c'est fondamentalement cette délégation contrôlée. Ce n'est pas un chèque en blanc. Or, les rappels à l'ordre à la Henri Weber ou à la Chevènement ou à la Jospin sont des demandes de délégation absolue, inconditionnelle, une fois pour toutes. Nous avons pour nous le vote et les sondages, cette sorte de caution magique du politique. Et moyennant quoi, laissez-nous en paix. Nous roulons pour vous, nous pensons pour vous.
Nous écoutions à l'instant une archive de Pierre Bourdieu, 1998. Alors, Roland Gory, déjà, la démocratie, la délégation contrôlée. Mais j'ai envie de lire une phrase qui n'est pas sans rapport avec cette idée de garder l'accès direct à la parole. Vous avez de nombreuses réflexions sur la place du récit et vous reprenez d'ailleurs le texte de Pasolini à ce sujet sur la survivance des lucioles, mais vous avez une petite phrase très simple et très belle en même temps. Nous n'avons plus le temps. La France qui se lève tôt n'a plus le temps d'analyser ses rêves. Donc il semble qu'il y ait quand même un rapport entre le devenir temporel de la démocratie et le déclin de l'expérience et également celui de la parole et du récit chez vous, Roland Gory.
Oui, c'est-à-dire que nous avons entendu Bourdieu qui a fait un texte magnifique en 1995 sur les abus de pouvoir qui se légitiment ou s'autorisent de la raison, et où il dit que c'est justement défendre encore la raison que de dénoncer, de déconstruire les abus de pouvoir qui se mettent en place en son nom. Je crois que c'est un point très important quand on parle de l'évaluation ou quand on parle justement de la technique, parce que Bourdieu aussi insiste sur ce point, et je me situe un peu également dans ce sillon-là, c'est-à-dire nous avons aujourd'hui une démocratie qui est confisquée par une technocratie. Et quand vous parliez tout à l'heure de l'évaluation, l'évaluation, c'est la nouvelle forme que prend la bureaucratie aujourd'hui. Et Alain Caillé évoquait tout à l'heure son coût. Il faudrait évaluer ce que coûte l'évaluation, à la fois sur un plan matériel et sur un plan symbolique, avec des effets sociaux et subjectifs qu'elle peut produire. Et là, nous venons à votre question. C'est-à-dire que ça, nous sommes là dans quelque chose qui est à la fois une machine de gouvernement, cette manière de fonctionner, et une nouvelle fabrique des subjectivités. C'est-à-dire, n'est-ce pas, aujourd'hui, l'humain doit se penser en termes de capital, en termes de ressources humaines. On rejoint Gary Becker, 1964, le capital humain, n'est-ce pas, et qui a quand même influencé la plupart des réformes néolibérales conservatrices. Nous sommes aussi, c'est un point important aujourd'hui en France, en train finalement de rattraper ce qui a pu se produire dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire une formidable régression sociale. Nous sommes face, n'est-ce pas, à ce défi-là. Et c'est là où, tout à l'heure, je ne peux pas vous laisser dire que les professionnels ne réagissent pas. Les professionnels réagissent simplement. Je crois qu'ils ont été d'abord sidérés, presque de l'ordre du traumatisme, et que c'est uniquement maintenant que l'on trouve, et ça rejoint votre question aussi, que l'on trouve les mots pour dire l'expérience traumatique que nous avons vécue. L'expérience traumatique que nous avons vécue, c'est justement cette espèce d'injonction à penser le monde et à se penser soi-même en termes purement économiques, techniques et financiers. Et ça, c'est toute une culture. une culture qui fait qu'effectivement, on est davantage aujourd'hui en train de confier aux industries de programme, comme dit Bernard Stiegler, n'est-ce pas, l'éducation des enfants, plutôt que leur raconter des histoires, plutôt que de parler, plutôt que de transmettre. Ça, c'est un point important. La démocratie d'expertise dont je parlais tout à l'heure, eh bien, elle vient confisquer ce qui constituait les fondements même de la démocratie. Je sais que là, je crois, on est tout à fait d'accord avec Alain Caillé, c'est-à-dire la distribution égalitaire de la parole.
Roland Gori, dans un article récent paru dans Droit Social, Alain Supiot, que vous citez souvent, l'auteur de L'Esprit de Philadelphie, un article qui s'intitule « Fragments d'une politique législative du travail », où il s'interroge justement sur l'absence de véritable politique du travail, que ce soit du côté des partis de droite ou des partis de gauche. Alors, il fait référence au début de son article, là, ce fameux entretien psychothérapeutique qui est parfois celui qui permet aux salariés d'être embauchés. Alain Supiot dit « signe de consentement des sujets à leur propre dépropriation ». Ma question, c'est que si on me propose un tel entretien psychothérapeutique et que je cherche un emploi, est-ce que je dois le refuser ou que je dois y aller, Roland Gori? Enfin, on ne peut pas généraliser, mais...
Philippe Petit, je ne peux pas vous donner un mode d'emploi pour lutter contre l'aliénation néolibérale. Mais je suis fondamentalement, et peut-être que ça rejoint un des thèmes d'Alain Caillé, je suis fondamentalement pour des espèces de micro-transgressions. C'est-à-dire qu'on fait bouger les choses. Et encore une fois, je ne suis pas opposé à la technique. Vous l'avez bien compris, la technique, c'est absolument formidable. Mais elle a constitué un moteur du progrès. Elle est en train de devenir l'opérateur d'un asservissement. Donc il faut qu'on puisse trouver un jeu, et le jeu, c'est par la parole.
Alain Caillé.
Oui, ce qu'il faut ajouter, c'est que on disait tout à l'heure que ça coûte cher, cette suppression de la gratuité, mais on peut développer un petit peu ça et rappeler que les grandes entreprises multinationales qui marchent, celles qui sont rentables, sont en train d'abandonner cette culture du reporting qu'on est en train d'imposer dans les administrations françaises. Donc ça mérite réflexion. Alors si on essaie de creuser encore un peu davantage, d'où vient cette culture du reporting, de l'évaluation généralisée, du benchmarking, comme on dit? Bien sûr.
Expliquez, benchmarking.
Benchmarking, c'est la comparaison systématique avec la mise en concurrence systématique à la fois des marques, des idées et des hommes les uns avec les autres à travers des évaluations objectives, quantitatives, supposées objectives et quantitatives généralisées. Alors, bien évidemment, et Roland Gori le dit à juste titre, c'est l'aboutissement d'une culture néolibérale, c'est-à-dire c'est la généralisation de la norme marchande, financière et spéculative à toutes les sphères de l'activité humaine. Et là où les activités, où les produits n'ont pas de prix sur le marché, on fait comme s'ils avaient des quasi-prix. Nous venons des quasi-marchandises ou des quasi-producteurs de marchandises, même quand nous sommes des fonctionnaires. Mais on pourrait peut-être essayer d'aller un petit peu au-delà et affronter une question très compliquée, à laquelle Roland Gori fait allusion dans son livre en parlant de démocratie totalitaire. Alors, le mot démocratie totalitaire, évidemment, fait problème. C'est un oxymore. On ne peut pas avoir les deux à la fois. Mais je pense qu'il faut quand même aborder la question sans trop de faux fuyants. Est-ce que nous n'avons pas basculé depuis, je pense, une vingtaine d'années dans des formes totalitaires qui resteraient à préciser et qui sont paradoxales? Pour l'instant, je mets juste une étiquette pour désigner le lieu du paradoxe. Je pense pour ma part que nos sociétés sont entrées dans des formes de totalitarisme à l'envers. C'est-à-dire qu'elles sont radicalement différentes des sociétés totalitaires d'hier, pour des raisons qu'on pourrait expliquer, mais elles sont tellement différentes qu'elles ont énormément de traits communs. Et tout le discours de l'évaluation, la norme de l'évaluation, fonctionne de manière extraordinairement proche des normes de la planification soviétique, par exemple, hein, avec cette obligation de remplir les obligations du plan. Chacun, par enthousiasme, doit produire toujours davantage de clous, de chaussures, de marteaux, etc. chaque année.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que, de même que nous avons eu le socialisme réel, nous avons, sous certains traits, le libéralisme réel, parfois?
Ah, je ne dis pas que c'est le libéralisme. Ça, c'est un vaste débat. Quel est le rapport du libéralisme au néolibéralisme ou au capitalisme? Un débat très compliqué. À de multiples égards, le néolibéralisme est une négation radicale du libéralisme traditionnel. C'est une inversion complète.
C'est quoi votre définition du néolibéralisme, vous?
La définition du néolibéralisme, c'est tout simplement l'extension de la norme marchande à toutes les sphères d'activité, à partir du postulat que les sujets humains sont exclusivement des homo economicus.
C'est un peu ce que Polanyi appelait la mentalité de marché.
C'est ce qu'il appelait la mentalité obsolète du marché. C'est le triomphe de cette vieille mentalité obsolète du marché. Mais on peut le détailler un petit peu, parce que finalement, la Revue du Monde s'est fondée sur ce constat-là, à partir dans les années 80, sur le constat que la pensée des sciences sociales, de la philosophie politique, avait radicalement basculé depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que pendant deux siècles, les économistes s'étaient contentés d'utiliser le modèle de l'homo economicus pour expliquer ce qui se passe sur le marché des biens et services. À partir des années 1960-70, ils se disent, certains, notamment Gary Becker et d'autres comme Hayek à la file, se disent, mais finalement, tout autre modèle de l'homo economicus peut servir à expliquer ce qui se passe dans toutes les sphères de l'activité humaine. Et curieusement, la sociologie de l'époque, y compris une partie de la sociologie de Bourdieu, et la philosophie politique de l'époque, donnent très largement raison aux économistes dans leur visée d'hégémonie. En un mot, par exemple, la théorie de la justice de John Rawls, le monument de la philosophie politique de la fin du XXe siècle, repose sur le postulat que les normes de justice doivent être élaborées par ce que Rawls appelle des hommes économiques ordinaires. C'est avec des hommes économiques ordinaires qu'il faut fabriquer une société juste. Alors, le néolibéralisme, on peut considérer que c'est la prise au sérieux et la généralisation de cette idée que l'homme, l'être humain, n'est qu'un homo economicus et qu'en conséquence, la seule forme de coordination légitime et efficace, c'est le marché, et à terme le marché financier et spéculatif.
Bien, la société technicienne dans laquelle le monde occidental vit, c'est une société qui est tout entière orientée par le développement des techniques qui se développent d'une façon presque autonome, c'est-à-dire indépendante des conditions économiques dans le monde occidental et des pouvoirs. Et d'autre part, c'est une société qui est tout entière faite pour le développement des techniques, c'est-à-dire donc elle est déterminée par et elle est faite pour. Seulement, c'est quand même une société, c'est-à-dire qu'elle est quand même composée d'hommes, elle est quand même composée d'institutions qui ne sont pas du tout, qui ne fonctionnent pas comme normalement elles fonctionneraient si elles étaient purement techniciennes. Les hommes ont encore des sentiments, des réactions, etc., c'est-à-dire qu'ils sont mal adaptés à la technique pure. Alors, vous avez tout simplement des conflits extrêmement simples, comme ceux qui opposent des gens quelconques, le public, par exemple, à la construction de centrales nucléaires, et puis le technicien qui vous explique, mais pardon, le centrale nucléaire, c'est quelque chose de parfaitement indispensable. Autrement dit, la société dans laquelle nous vivons est déchirée entre le poids des techniques et puis tout l'héritage du passé, tout l'héritage historique, sentimental, d'espérance, de projet humain, etc., où l'homme se retrouve difficilement.
Roland Gory, la société technicienne n'a pas que des défauts. L'appel des appels a été lancé sur le net. Combien de signatures là ?
85 000 et quelques, oui, près de 90 000. Oui, non, mais je ne suis absolument pas opposé.
Alors, on écoutait, excusez-moi, Jacques Ellul,
15 décembre 1980.
Mais je ne suis absolument pas opposé aux techniques, bien évidemment, c'est absolument formidable. J'ai essayé de dire tout à l'heure, mais je peux le reprendre, que si vous voulez, les techniques ont été un moteur, des facteurs d'émancipation sociale et culturelle, et qu'à l'heure actuelle, elles sont en train de devenir, pourrait-on dire, des opérateurs de servitude. Donc le problème, il est là. C'est-à-dire que si vous laissez une place à ce qui est spécifiquement humain, c'est-à-dire tragique, que vous ne réduisez pas l'homme à un instrument ou à un capital, à partir de ce moment-là, la technique peut constituer ce facteur d'émancipation sociale, peut continuer à constituer ce facteur d'émancipation sociale. Mais peut-être juste un mot par rapport à la démocratie totalitaire. Je crois qu'il faut bien...
Et néolibéralisme.
Oui, il faut bien distinguer, si vous voulez, les formes politiques du totalitarisme telles que nous les avons connues au XXe siècle, avec une autre forme de totalitarisme aujourd'hui qui se dessine, qui est un totalitarisme culturel par homogénéisation, standardisation, manière de penser et rétrécissement de l'éventail des langues et des cultures, avec bien évidemment cette prévalence d'une culture très technique, d'une langue essentiellement anglaise, davantage d'ailleurs celle de Wall Street plutôt que celle de Shakespeare. Donc vous voyez, c'est ce facteur d'homogénéisation. Et par rapport au néolibéralisme, alors je suis d'accord bien évidemment avec ce qu'a dit Alain Cayet, le néolibéralisme, je pense que Foucault nous en parle merveilleusement, qu'est-ce que c'est? C'est finalement la possibilité d'étendre à l'infini les modèles d'analyse économique, la manière, les modalités d'intelligibilité du monde à partir de ce qui était réduit au secteur du commerce, de l'industrie et de la technique. C'est d'ailleurs un de mes thèmes, vous le savez, de recherche, c'est-à-dire comment se fait-il aujourd'hui que la valeur soit devenue soluble dans la pensée du droit et des affaires. Il y a quand même autre chose. Et là, je crois que la poésie peut constituer un lieu de résistance fondamental.
C'est ça la dignité de penser ?
Ça en fait partie, c'est-à-dire c'est un des moyens de ne pas permettre que l'homme tragique soit réduit à un pur et simple instrument, parce que là, que ce soit Freud ou Keynes et bien d'autres, l'horizon, qu'est-ce que c'est? C'est une société de termites, c'est pas une société humaine.
Alain Cayet.
Oui, il faut peut-être ajouter un mot.
Ce sera la conclusion.
Très bien, pour caractériser le néolibéralisme, ce n'est pas seulement l'universalisation du modèle de l'homo economicus à toutes les sphères de l'activité humaine ou de la vie sociale, c'est aussi une extraordinaire volonté de puissance. C'est aussi un basculement dans la démesure, dans ce que les Grecs appelaient l'hubris. Et ça, c'est notre problème fondamental. Je crois que c'est le problème fondamental auquel doit s'affronter le convivialisme. Comment lutter contre cette démesure qui s'est traduite par une explosion absolument ahurissante des inégalités depuis 30 ans. Tout le monde connaît les chiffres, mais il y en a certains qui sont plus parlants que d'autres. Moi, celui que je cite toujours, c'est le suivant, qui était donné par l'économiste Paul Krugman. En 1970, les 100 patrons américains les mieux payés gagnaient 40 fois le salaire de leurs ouvriers de base. Ils en gagnent actuellement 1000 fois le salaire. Donc, les inégalités ont été multipliées par 25. Et on pourrait montrer que presque tous les problèmes d'échec de la démocratie, soit dans les pays traditionnellement démocratiques, soit les échecs de la démocratie à se généraliser dans le monde, et par ailleurs tous les problèmes écologiques procèdent très largement de cette explosion absolument démentielle des inégalités. Et donc le problème que nous avons à résoudre, c'est bien sûr de retrouver un monde commun, c'est ce que disait Roland Gori, un monde commun et un monde humain, un monde de la parole, un monde du discours, en dessous des évaluations, mais aussi un monde commun qui vit dans certaines limites, c'est-à-dire entre un revenu minimum et un revenu maximum.